franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour les carnets, toujours en Gironde avec deux initiatives à nouveau. La première concerne un nouvel exemple de reprise en main de la production d'une usine par d'anciens salariés. Et dans le cas qui nous intéresse, avec l'atelier du Chalet Aquitain, il ne s'agit pas d'une cessation d'activité, mais d'une délocalisation en Bretagne de l'entreprise girondine. Et elles furent d'abord deux à s'associer pour reprendre l'entreprise de chaussures située à Blanquefort. Deux ans plus tard, de nouveaux modèles sont brevetés, de nouveaux emplois sont créés. Marly Marchilly, cofondatrice de l'atelier, notre première invitée. Quel nom quand même, Baobab Dealer d'Espace, cette jeune association veut provoquer des échanges de paroles entre habitants des villes, un peu baobab si vous voulez. Elle souhaite surtout que collectivement, nous nous approprions davantage l'espace public. Cette démarche n'est pas sans faire penser à l'AMPU, l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, organisme poétique et culturel de cohésion sociale, dont vous trouverez d'ailleurs le lien à nos pages d'émission. Vincent Mila, fondateur de Baobab, dealer d'espace, sera notre second témoin.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand, sur France Inter.
Marly Marchilly, bonjour.
Bonjour Philippe.
Quel étrange prénom que vous portez, Marly.
Oh, c'est un prénom d'origine hollandaise.
Ah, c'est pour ça. On connaissait Marly le roi, on va parler de Marly la reine.
Oh non, quand même, il faut rester humble et modeste. D'abord, je suis, on va dire, le porte-drapeau de toute une équipe. Donc j'aime bien citer aussi les prénoms des autres. Mmh. On pourrait le faire.
Oui, on pourrait le faire. Alors, le risque, c'est d'avoir une liste de plus en plus longue. On va expliquer l'histoire. Donc, dans la région de Bordeaux, il y avait un site de fabrication de chaussures pour enfants. Délocalisation. On part délocaliser en Ille-et-Vilaine. On va pas en Roumanie, on va en Ille-et-Vilaine. Et vous, vous étiez employé avec Dominique de cette entreprise.
Absolument. Donc, moi, dans des fonctions commerciales. Dominique, dans des fonctions techniques. Et donc l'idée était de conserver un vrai savoir-faire de production qui était appelé à disparaître, mais qui, nous, avait sens, faisait sens pour nous. Et donc de conserver les métiers de création, de développement et production de petites séries de chaussures.
Oui. Parce que parfois, Marly, même assez souvent, on a l'exemple d'une société qui cesse ses activités et pourtant elle est reprise en main, souvent en société coopérative, par une partie des salariés. Vous, c'est pas du tout ce modèle-là.
Non, pour des raisons toutes simples de timing en fait. Quand il a fallu fermer le site, il a fallu faire très vite pour monter un projet. Et derrière, ben en fait, on n'a pas eu le temps de créer une SCOP. On a créé une SAS, on a donc porté le projet tous les deux, Dominique et moi, et conservé donc des personnes qui étaient attachées à maintenir leur emploi et à conserver leur savoir-faire. Mmh. L'idée, elle est vraiment venue de là. Il faut savoir aussi qu'on avait un grand magasin attenant à l'atelier qui fonctionnait depuis des générations, qui était très connu en Aquitaine, pas seulement autour de Bordeaux. Et donc le magasin a rouvert à partir de mars 2014 pour pouvoir vendre nos produits et ceux d'autres marques partenaires.
Donc la société nouvelle, l'entreprise, l'atelier du Chalet Aquitain, naît en 2013.
Voilà, et derrière il a fallu réorganiser le site, faire les lancements de collections, prévoir les achats pour pouvoir rouvrir le magasin qui était complètement vide en novembre 2013 et qui a donc accueilli ses nouveaux clients à partir du 18 mars 2014. Ouais. Entre-temps, c'était beaucoup de travail quand même, créer des collections, fabriquer des petites séries et puis faire les achats pour pouvoir accueillir nos clients. On a à peu près 200 mètres carrés de surface de vente près de Bordeaux.
Mais je répète, vous êtes une reine, parce que vous allez nous expliquer, mais dès la création de la société, l'ouverture du magasin, vous faites le buzz.
Oui, bon, c'est un petit peu gêné. Heureusement que c'est à la radio qu'on ne voit pas que je rougis, mais l'idée, elle est de dire, non, en fait, ce qui fait le buzz, c'est de porter la passion des équipes. C'est le buzz, c'est en fait de se dire, mais oui, aujourd'hui, on peut aller à contre-courant et conserver des métiers de savoir-faire ici en France. Alors évidemment, il faut inventer des nouveaux modèles économiques. Et ce qui porte notre projet aujourd'hui, c'est le circuit court, c'est-à-dire de fabriquer sur place pour vendre directement aux consommateurs. Parce que c'est un problème de marge. Dans la chaussure pour enfants, on a des marges toutes petites, c'est des produits complexes à fabriquer, c'est des gros budgets pour les familles et les consommateurs aujourd'hui. Donc il a fallu inventer un autre fonctionnement. Et ça, ça, c'est très rare. Mmh. C'est ça qui plaît aux gens aujourd'hui. Avoir une économie qui fonctionne localement, s'acharner à conserver des métiers qui sont en voie de disparition, et aussi pouvoir avoir accès directement à ces savoir-faire en profitant de nos chaussures.
Donc vous voulez dire, Marly, on peut s'en sortir à partir du moment où on relocalise et on recentre autour d'un noyau dur les compétences et les prestations?
Oui, alors après, rien n'est gagné. Hein. Le commerce est extrêmement difficile aujourd'hui. On a besoin de visibilité, les gens doivent adhérer à notre projet. On fait une opération de collecte solidaire de chaussures usagées au profit du relais. On fait vraiment toutes sortes de choses pour donner une dynamique localement et pouvoir montrer aux gens qu'effectivement, il y a encore de la fabrication possible chez nous. Mmh. C'est un pari.
Ouais. Alors, résultat très résumé, hein, aujourd'hui, le chalet, l'atelier du chalet à Quittain, c'est 11 salariés, dont 9 anciens de la précédente entreprise.
C'est ça.
Et puis surtout, c'est un modèle d'innovation, votre atelier. Vous avez créé en 2015 la Velskat.
Voilà, donc c'est un acronyme pour basket à velcro. C'est une création, une marque et un brevet déposé par Dominique Laboureau. Elle se chausse et une fois qu'on a fait le lacet à son pied, on l'ouvre et on la ferme d'une main. Mmh. Avec deux velcros latéraux. Donc ça, on a aussi créé un site marchand. C'est une chaussure qui est personnalisable et qu'on vend sur notre site, donc dans notre boutique, mais également en ligne sur velskat.com. Mmh.
Vous avez gardé en mémoire cette étape incontournable de l'enfance où les parents apprennent aux enfants à faire les lacets de chaussures. Moi, je m'en souviens très bien.
Oui, mais en vieillissant, on sait faire les lacets, mais on devient paresseux, donc on n'a plus envie de les faire.
Ouais, le siège est à Blanquefort.
C'est ça. Blanquefort près de Bordeaux,
le siège de l'atelier du chalet à Quittain. Le site, c'est atelierduchalet.fr. Il y a une page Facebook. Vous aurez le lien aussi avec la Velskat, velskat.com, et également sa page Facebook. Merci infiniment, Marly.
Merci beaucoup, Philippe.
Bègle fut la capitale de la morue à une époque, ce qui ne l'empêche pas de faire la fête à la morue chaque mois de mai. L'ancienne sécherie près de la mairie a été investie il y a quelques années par un collectif d'artistes et de plasticiens sous le nom de Morue Noire. Et ce même endroit qu'une association présidée par Noémie, correspondante des Carnets, merci, prévoit d'ouvrir le premier tiers-lieu de la ville. On en parle de plus en plus fréquemment de ces lieux ouverts tous les publics. Celui de la Morue Noire aura autant une vocation social qu'économique, comme le fait remarquer Noémie. L'espace sera ouvert aux habitants du quartier, aux travailleurs et chercheurs d'emploi, et il permettra aux entrepreneurs de la zone rurale du sud Gironde de venir développer leur activité sur le territoire de la métropole bordelaise. Ils sont déjà annoncés sur la page Facebook du tiers-lieu de la Morue Noire à Bègle, 10 postes de travail, 2 salles de réunion, et puis un espace partagé avec Supercoop de Bordeaux, le supermarché coopératif et participatif de la métropole. Vous allez trouver le lien Facebook à nos pages. Et puis quant à l'introduction de la morue, il faut remonter au 19e siècle, qui voit le port de Bordeaux devenir le premier port, normalement, de débarquement de la morue. Et je dis normalement parce que je me réfère à un blog dont vous allez trouver l'adresse aussi à nos pages. On la fera sécher en différents lieux fermés ou extérieurs, avec une prédilection pour Bègle, au climat plus doux et à la main-d'œuvre abondante, principalement féminine. Voilà pour l'histoire de l'économie locale. Vincent Millard, bonjour.
Bonjour.
Vincent, vous êtes, alors je cite, à partir des informations que l'on peut trouver glanées sur votre site de Baobab Dealer d'Espace, vous êtes orateur et architecte informel.
Ah oui, parce que j'ai une formation d'architecte à la base, mais c'est vrai que nous organisons beaucoup de débats avec Baobab, donc en fait, c'est souvent moi qui présente et qui présente l'association également.
Mmh. Et un architecte informel, c'est quoi ?
Un architecte informel, c'était une manière de se présenter un peu loin de l'image qu'on peut avoir en fait des architectes, qui sont parfois dans la forme. Mmh. Et nous, on voulait s'extraire un petit peu de ça pour parler du fond, pour parler des sujets de société, pour parler de sujets sociaux, voilà, de tout ce qui a à voir avec la ville.
Oui. Et à partir de l'architecture, vous avez décidé de vous orienter vers un master stratégie territoriale urbaine à Sciences Po à Paris.
Oui, tout à fait, mais ça, c'est un parcours personnel. Il y a plein de gens dans l'association qui ont des parcours complètement différents. Voilà, il y a une graphiste, on a une infirmière, on a une sociologue, un urbaniste, etc. Enfin, c'est ouvert à tout le monde et c'est vrai que moi, ça, c'est mon parcours personnel. que j'essaie de mettre au service de l'association Baobab.
Oui, dont l'objectif est de démocratiser l'intérêt public, je cite hein, toujours, pour l'espace.
Alors l'espace habité, au sens large.
Mais c'est pour d'abord fabriquer des échanges, de la parole et même des publications ?
Tout à fait, en fait. L'idée vient à la base d'un constat qu'il n'y avait pas assez d'échanges à la fois dans la profession d'architecte, à la fois avec d'autres gens, et que on risquait d'être tous un petit peu enfermés dans derrière nos ordinateurs, etc. Et au fur et à mesure, on s'est construit comme ça un ensemble de dialogues, de rencontres et de formats qui nous permettent de rencontrer des gens et surtout de se faire rencontrer des gens autour de ces questions-là. Parce que il y a beaucoup de passion autour des questions urbaines. Et c'est vrai que nous, on apporte un petit peu de savoir, mais de savoir un petit peu léger. C'est pour ça qu'on fait un petit peu d'éducation populaire, si vous voulez, oui. Même si il y a des gens qui sont très spécialistes de ça. Voilà. Mmh. Mais on va voir plus large.
Oui. Vous inventez des choses poétiques, le péage des rêves, par exemple.
Oui, par exemple, le péage des rêves, c'était les gens, pour rentrer dans la ville de Bordeaux, devaient en fait nous raconter leurs rêves, sinon ils ne pouvaient pas passer les portes. On a fait des choses comme ça, on a mis des portes dans les portes exactement pour se reposer la question des limites de la ville.
Oui, oui.
On a organisé des soirées zoo urbains auxquelles chacun était convié à jouer le rôle d'un animal dans cette jungle urbaine. Voilà, des fois on prend des pas de côté et on s'amuse bien en fait, parce que quand on décale un peu le regard, on peut parler de vie, on peut parler d'architecture, on peut parler de choses très sérieuses en fait, en rigolant un peu et en emmenant des gens à faire ça.
Ouais. Alors même si vous dites finalement, c'est un esprit un peu bordélique et poétique et inventif, est-ce que malgré tout il y a du sérieux dans les questions que vous posez ? Est-ce que ça peut induire des modifications dans la gestion, la politique des villes ?
Mais ça, ça ferait nous prêter beaucoup de pouvoir qu'on n'a pas. Je pense qu'il y a énormément d'attentes en termes de débat public sur énormément de questions, et il y a énormément d'initiatives qui sont faites. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la société civile. Je crois qu'il y a énormément d'intelligence qui demande qu'à être révélée. Nous, on le voit tout le temps à chaque fois qu'on organise quelque chose. Et en même temps, il y a beaucoup de tolérance quand on aborde des sujets un petit peu décalés. Donc, je pense que on mériterait, en tout cas sur le plan politique ou sur le plan des actions publiques, à être parfois un petit peu plus péchu, un petit peu plus entreprenant et oser faire des choses un petit peu différentes. Mmh. Voilà.
Parce qu'il y a deux questions là très très sérieuses, fondamentales dans l'organisation de l'espace urbain, c'est celui de la mobilité, celui de l'habitat.
Oui, mais on pourrait parler d'environnement aussi, oui. Ce sont des thèmes qui reviennent régulièrement. Bah, l'habitat, aujourd'hui, on a une crise du logement qui est connue. Il y a des problèmes dans le milieu rural également qu'on a abordé. Mmh. C'est compliqué, par exemple, quand on habite dans le Médoc, de vivre la métropole quand on habite un petit peu loin.
Oui.
Et on est, comme vous le dites, contraint par les transports, contraint par l'éloignement des écoles, l'éloignement des institutions publiques, etc., etc. Et du coup, nous, on essaye parfois d'aller à la rencontre de ces gens-là. Alors, on avait l'intention d'avoir, par exemple, un véhicule qui pouvait circuler dans les villages, etc. Bon, on n'a pas les subventions pour ça, on n'a pas de subventions tout court, donc on a besoin d'argent. Mais on fait avec les moyens du bord et on en est très content.
Mmh. Les prochains rendez-vous de Baobab Dealer d'Espace ?
Là, nous avons une intervention à Poitiers, à la Maison d'Architecture, autour de la micropublication. Donc, on sort un fanzine à cette occasion-là. On invite pas mal de monde. Sinon, on va travailler dans les mois qui arrivent autour de la psychologie urbaine, la psychanalyse. On va essayer de faire ça entre Paris et Bordeaux. Et peut-être en parlant du vécu des gens, en évoquant ce vécu-là tout simple de tout un chacun qui allait une fois à Paris y vivre ou pas, ou aller à Bordeaux. On peut toucher des questions plus larges qui sont liées aujourd'hui aux migrations d'ordre mondial, et nous rapprocher un petit peu de ces gens-là et de voir qu'on n'est pas forcément si différent que ça. Voilà, donc je vous invite à nous suivre.
Avec plaisir. Il y a une adresse du blog hein, de Baobab que vous allez trouver à notre page, ainsi que la page Facebook. C'est Baobab Dealer d'Espace, association née en 2011 à Bordeaux et présidée par Vincent Mila. Merci Vincent.
Merci, très bonne journée.
Demain, nous poursuivons notre route en Gironde avec une association de lutte contre les discriminations et association aussi de promotion de la diversité auprès des entreprises qui sont nombreuses, celles de la Technopole de Bordeaux. Et puis on vous présentera un institut très original, l'Institut des Afriques, pour valoriser le potentiel de création et la richesse des peuples africains. Nos prochaines étapes, petit tour d'horizon et rappel pour vos cafetages, le Doubs, le Jura, la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Vendée.